Oggi altre di mai l'occasione di assare. Si è riempito talmente di
fatti e di commerci o per
Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes embarqués avec vous pour près de 60 minutes d'échange en parole aux auditeurs. L'émission 100% interactive de Radio Tapi. Ce jeudi, nous nous penchons sur un sujet du secteur de la santé avec l'organisation d'une énième campagne de vaccination contre la poliomyélite qui vient de s'achever. Cette campagne s'est tenue du 19 au 21 août dans 7 provinces de la RDC. Une campagne dite de riposte, comme l'a signifié le ministre de la Santé suite à la résurgence de l'infection par le poliovirus sauvage en RDC. La RDC a connu 62 cas de polio entre 2006 et 2009. La poliomyélite est une maladie contagieuse qui se transmet par voie orale. Elle s'attaque aux muscles et cause une paralysie irréversible. L'OMS estime que l'enfant malade peut contaminer 200 autres enfants. La question pour lancer notre émission, que faire pour finalement éradiquer cette maladie qui rend infirme? Pierre Lamézi, Sikim Poutou, sous la supervision de Nicole Ngaka, sont à la réalisation de cette émission. À la mise en onde, nous avons Jusse Ussiela.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs par Internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Encore une fois, bonjour. Nous avons voulu avoir dans ce studio le docteur Tchembélé. Le docteur Tchembélé est le coordinateur national du programme élargi de vaccination, mais malheureusement, le crash qu'a connu la RDC, l'agent filaire qui s'est écrasé dans la province du Bandundu, il y avait des agents du PES qui étaient dedans et ils ont perdu leur vie. Donc toutes nos condoléances, ce qui fait que notre invité ne peut pas être avec nous aujourd'hui dans ce studio pour que nous puissions échanger avec lui et aussi avec vous, les auditeurs, de cette question qui concerne tous nos enfants, cette campagne de vaccination qui s'est tenue en RDC pour pouvoir éradiquer la poliomyélite dans notre pays. Comme je vous l'ai dit en introduction, le poliovirus sauvage en RDC, il y a une résurgence, ce qui fait qu'il y a une riposte. Et il y a eu des cas, on a connu à peu près 62 cas de poliomyélite entre 2006 et 2009. C'est pourquoi on a organisé encore une fois une riposte. Et dernièrement, au cours de l'année 2006, il y a eu d'autres cas qui ont été déclarés et enregistrés. C'est ainsi que, cette fois-là, les autorités sanitaires, avec les partenaires en santé, comme l'UNICEF, l'OMS et d'autres partenaires privés, comme le club Rotary, ont pensé qu'il fallait encore une fois organiser une campagne de vaccination afin d'éradiquer cette maladie. Nous avons déjà nos auditeurs qui sont en ligne. Il y a Donatien qui est en Bujimaï. Bonjour Donatien.
Bonjour, maman Chantal Lumba, c'est Donatien Kabouroumbouyi depuis la ville de Bujimaï.
Oui, on vous écoute. Vous n'avez pas connu cette première phase de vaccination parce qu'elle s'est tenue au Bas-Congo, à Kinshasa, à l'Équateur, au Kasaï occidental, au Katanga et au Maniema, ainsi qu'une partie du Bandundu. Mais au Kasaï occidental, plutôt oriental où vous vous trouvez, dites-nous qu'est-ce qu'il faudrait faire pour enfin finalement mettre fin à ce virus qui rend carrément, qui paralyse nos enfants s'ils sont atteints.
Ok, madame Chantal Lumba, avant de passer à donner des suggestions, il faut que les auditeurs connaissent d'abord qu'est-ce que la poliomyélite. La poliomyélite, c'est nous ici, on appelle Souneka, mais la poliomyélite, c'est une maladie infectieuse épidémique de l'enfant et de l'adulte jeune due à une inflammation des substances grises de la moelle épinière. La cause de cette maladie est multiple. Il y a le poliovirus qui est à la base des provocations de cette maladie. Le mode de transmission se fait par digestion à partir de l'eau ou des aliments suyés par les selles du sujet porteur sain ou malade. Et à ce moment-là, quand on parle, il y a des formes de poliomyélite. Nous avons la première forme, c'est la forme paralytique et la forme non paralytique. À ce moment-là, quand nous entrons en profondeur, c'est une maladie qui tue beaucoup sans savoir que c'est telle maladie ou c'est telle maladie. À ce moment-là, il faut connaître des signes cliniques de chaque forme de cette maladie mortelle. Nous avons la première forme, c'est la poliomyélite paralytique. C'est une forme plus heureusement connaissable. Il y a des caractères, il y a l'apparition brusque de paralysie asymétrique. Le matin, au réveil, l'enfant se relève pré-paralytique et quelques jours. Les paralysies sont flasques. Comme aussi l'abolition des réflexes postérieurs.
Donc, Donatien, s'il vous plaît, Donatien, est-ce que c'est vrai qu'on a l'impression que vous êtes spécialiste en la matière, vous êtes médecin ou vous êtes infirmier?
Je suis infirmier.
Oui. Alors nous allons vous garder en ligne le temps d'écouter aussi d'autres auditeurs, parce que là vous ne nous avez pas encore donné votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement pour pouvoir éradiquer cette maladie, mais nous vous gardons en ligne, comme ça vous pourrez aussi écouter ce que les autres disent et aussi donner votre point de vue. Nous allons d'abord écouter Christian qui est à Mbandaka. Bonjour Christian.
Bonjour madame la journaliste et bonjour à tous les auditeurs de la fréquence de la paix.
Vous êtes à Mbandaka, on vous écoute. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour finalement éradiquer cette maladie?
Pour mettre un terme à cette maladie qui est la poliomyélite, je voudrais que notre ministère de la Santé et les personnels capables de pouvoir mettre les enjeux en place pour lutter contre ces virus. Si aujourd'hui, nous sommes en train de lutter contre le paludisme, nous sommes en train de lutter contre plusieurs autres maladies, et pourquoi pas de mettre un terme à ces virus qui est la poliomyélite. Je commence par dire, madame la journaliste, que il faudra aussi avoir les vaccinateurs qui sont du domaine médical. Dans la plupart des cas, les personnes qui vaccinent nos enfants, quand bien même elles ont suivi une série de formations, elles ne sont pas souvent en mesure de nous donner des réponses convaincantes aux questions qui leur sont adressées. Par là, je tiens à demander à son excellence, monsieur le ministre de la Santé, malheureusement il n'est pas présent, il n'est pas là, mais je pense qu'à travers le message, il va quand même se rendre compte de ça. Je lui pose cette question-là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, avant de procéder par telle opération, de recruter que des gens du domaine médical pour rendre l'opération beaucoup plus facile, pour éviter le risque que découleront nos enfants? Donc c'est ça ma préoccupation.
Oui Christian, mais à ce sujet, j'ai rencontré plusieurs personnes avant de pouvoir organiser cette émission. J'ai aussi posé la même question pour savoir, mais de temps en temps, il y a des vaccinateurs qui ne sont pas du domaine, pourquoi on les recrute? Et carrément, la réponse était que souvent, ça dépend de quelle vaccination on est en train de faire. Si la vaccination demande un acte carrément qui est des infirmiers, si on doit piquer des gens ou quelque chose dans ce genre, à ce moment-là, ils sont obligés de pouvoir utiliser essentiellement d'experts dans le domaine de la santé. Mais si, comme par exemple le vaccin contre la poliomyélite, il suffit de deux gouttes, là, c'est plus facile, on peut donner à des gens responsables qui peuvent aussi le faire et qui peuvent faire partie des personnes qui vont vacciner les enfants. Mais souvent, ils sont accompagnés par des experts parce que ce n'est pas une personne toute seule qui fait du porte-à-porte. Souvent, si c'est une personne qui n'est pas qualifiée, qui ne connaît pas bien le projet, aujourd'hui, et cette personne est accompagnée par quelqu'un qui connaît comment ça doit se faire, mais en grande partie, ça dépend vraiment de quelle vaccination il s'agit. Si on doit administrer des piqûres, là, nécessairement, il n'y a que le personnel soignant, mais si c'est des vaccins comme la poliomyélite, là, on peut donner aussi à d'autres personnes responsables qui peuvent donner 2 gouttes à chaque enfant. Donc, c'est la réponse que j'ai reçue, Christian, concernant la campagne de vaccination. Ça dépend vraiment du vaccin. Mais nous disons quand même merci à Christian pour votre intervention et votre préoccupation qui est vraiment fondée. Bonjour, Stanley.
Bonjour, maman Chantal Lumba, et bonjour à tous les étés de la radio au Capi.
Stanley, on vous écoute.
Oui, moi, ma contribution est surtout pour éradiquer cette maladie qui risque d'entraîner toute la jeunesse dans une malformation qui ne pourra pas profiter la nation. Donc, ce que je voudrais dire, c'est ceci. Il faudra que le gouvernement fasse beaucoup d'efforts pour organiser des campagnes de vaccination, même quand l'État n'est pas déclaré. Parce qu'en agissant ainsi, on pourra prévenir toutes ces choses. Et aussi, veiller sur les frontières. Nous avons des frontières qui sont très poreuses. Par exemple, ici au Kasaï occidental, dernièrement, il y a eu des cas qui ont été signalés. Je pense que c'est toujours du côté de la frontière Congo-Angola. Et comme là-bas, il y a des mouvements un peu compliqués, c'est ainsi que tout ce qui est produit en Angola rentre facilement en RDC. Et si les frontières sont bien organisées, sont bien contrôlées, je pense qu'on peut arriver à éradiquer cette maladie. Parce que, je vous affirme, ce sont des cas toujours rares. Quand vous constatez, vous trouverez qu'on trouve très peu de cas. Quand on fait l'étude, on constate qu'on provient toujours de notre pays.
Oui, Stanley, pour votre information, au cours de cette dernière campagne de vaccination, c'était simultanément aussi en Angola, au niveau des provinces transfrontalières, aux provinces de la RDC. Donc, peut-être c'est une façon de pouvoir réduire ou essayer d'éradiquer d'une manière cette maladie. Mais aussi, il y a des vaccinations de routine que nous connaissons dans tous les centres de santé où les mamans sont invitées, avant que l'enfant n'ait atteint une année, à pouvoir recevoir une série de vaccins, et dont le vaccin contre la poliomyélite. Donc, il n'y a pas que pendant la campagne de vaccination qu'on peut vacciner son enfant. Pendant la campagne de routine, les enfants peuvent aussi recevoir le vaccin.
Oui, oui. Ce que vous dites là est vrai. Parce que personnellement, je suis victime d'un cas pareil. Ma fille, qui a maintenant 12 ans, à l'âge de 6 ans, après avoir obtenu tous les vaccins, elle est devenue paralysique. Personnellement, je n'avais pas croisé les bras. Je suis allé au centre de référence provinciale à l'hôpital général. Heureusement, j'ai trouvé un médecin qui venait de Kinshasa pour former les médecins d'ici. Et il m'avait convoqué tous pour étudier. C'est parce que ma femme avait obtenu tous les vaccins. Alors, ils sont fait l'étude et ils ont découvert que ce n'était pas la poliomyélite. Ils allaient des soins appropriés et l'enfant s'est réuni en marche. Elle a commencé par stationner en marchant et tout. Et là, c'est pas mal. Alors, il y a aussi parfois de la négligence de la part des parents qui ont des enfants quand ils constatent que l'enfant a obtenu tous les vaccins et est tombé dans cette situation. Ils pensent directement que c'est la polio et ils renvoient l'enfant comme ça à cette catastrophe naturelle et l'enfant reste comme ça.
En tout cas,
donc, c'est la vigilance aussi des parents. La vigilance aussi des médecins, des gouvernants, je crois que l'effort d'ensemble pourra nous amener à éradiquer. Parce que c'est possible d'éradiquer cette maladie.
Merci. Merci beaucoup, Stanley, pour votre témoignage de Tatananga au Kasaï occidental. Et puis, nous demandons aussi à tous les médecins, ceux qui connaissent bien la matière, de participer à cette émission, nous éclairer sur des questions qui sont assez difficiles pour les gens qui ne connaissent pas comment ça se déroule. Donc, ils peuvent nous contacter au 081-890-6315, le 081-890-6315, ou nous écrire à l'adresse internet PA. radio@okapi.net. Nous allons redonner la parole à Donatien, qui est infirmier et nous a appelé à partir de Mohamed. C'était le premier intervenant au cours de cette émission. J'espère que Donatien, vous êtes toujours en ligne.
Je suis en ligne, madame.
Oui, il y a une question assez pertinente que nous a posée un auditeur. Il voudrait savoir, c'était question de Mbandaka, il voudrait savoir pourquoi est-ce que de temps en temps on rencontre des personnes qui ne sont pas spécialistes dans le domaine en train de donner le vaccin aux enfants.
Là, c'est un problème des organisations, des structures ou des zones de santé. Mais en matière de vaccine, c'est un vaccin à donner par les infirmiers parce qu'il y a toute une série de donner les vaccins aux enfants. Il y a à la naissance, on donne. Après naissance, il y a sixième semaine, on donne encore.
S'il vous plaît, Donatien, revenons pour le cas de la campagne ici contre la poliomyélite. Il a constaté, notre auditeur, qu'il y avait des personnes qui ne sont pas dans le domaine qui donnaient ce vaccin.
Ça, c'est déjà une erreur consommée par les responsables.
Mm-hmm.
Il faut avoir quelqu'un qui a la matière, qui a même un problème et résoudre médicalement.
Mm-hmm.
C'est ça le problème.
Alors revenons à notre question, parce qu'on vous a gardé quand même assez longtemps sur nos antennes. Vous avez suivi certaines réactions, les avis de nos auditeurs, mais vous, en tant que personnel soignant, que faut-il faire pour éradiquer la poliomyélite dans notre pays?
Oui, en tout cas, c'est une belle question. Pour éradiquer la poliomyélite dans notre pays, il faut d'abord respecter la chaîne de froid. Ça, c'est le premier point. Il faut renforcer. Oui.
Mais on vous écoute, Donatien.
Oui, il faut respecter la chaîne de froid. Bien surveiller les stocks. On a amené le vaccin, vérifier la date d'expiration, chercher à former des cadres et payer les agents qui peuvent vacciner bien les enfants et être en permanent avec les vaccins, parce qu'il y a d'autres semaines quand nous sommes au centre, si l'enfant est dans les sixième semaine pour avoir le VPO, l'enfant ne se présente pas à l'absence de vaccin au centre de santé. Vous voyez, on ne respecte pas la dose dans notre pays. À l'absence de telle dose, on va enjamber une autre dose qui a une autre semaine.
Oui.
Vous voyez, tout ça, ça mène un peu de désordre pour ne pas éradiquer cette maladie-là.
Vous avez donné plusieurs recommandations, respecter la chaîne de froid, surveiller les stocks, la formation même de ces agents. Vous avez fait plus allusion à ce que doit faire le personnel soignant. Vous n'avez soulevé qu'un seul point concernant le respect même du calendrier vaccinal de l'enfant. Mais que faire encore la population pour pouvoir éradiquer cette maladie?
Là, à la naissance, on donne le VPO 0. Après la naissance, après un mois et deux semaines, on donne encore VPO 1. Après six semaines ou un mois et deux semaines, il y a deux mois et deux semaines, comme dix semaines, on donne VPO 2. 14 semaines après, on donne VPO 3. Vous voyez, il y a une toute série de doses qu'on donne à l'enfant. Si l'enfant n'a pas pris toute une série de doses, il y aura un problème. Vous voyez les conséquences qui doivent nous arriver.
En tout cas, merci beaucoup, Donatien, pour votre participation à cette émission. Vous avez été vraiment d'une grande utilité parce que vous-même, vous êtes infirmier et vous connaissez bien ce domaine. Nous vous remercions. Bonjour, Didier.
Oui, bonjour, madame.
Vous êtes à Badolit, on vous écoute. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour éradiquer finalement cette maladie?
Oui, j'aurais trois points à relever pour ce débat, madame. Oui, la première des choses, est de vacciner obligatoirement tous les enfants de 0 à 5 ans contre la poliomyélite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne les parents. Il faut que les parents aident le programme élargi de vaccination à avoir l'accès facile chez leurs enfants. Parce qu'il y a de ces parents, madame, qui ne veulent pas que leurs enfants soient vaccinés.
Mm-hmm.
Parce que peut-être après la vaccination, il y a de ces enfants-là qui sont malades, ou il y a l'enfant qui présente le chauffement excessif au niveau du corps.
Mm-hmm.
Voilà les points que je fais relever. Et l'avant-dernier point concerne le PEV lui-même, enfin concerne la sensibilisation. On voit que le PEV n'a pas une forte sensibilisation,
mm-hmm.
et j'aimerais que le PEV puisse renforcer la sensibilisation de la campagne en expliquant à la population tous les effets secondaires de cette opération.
Mm-hmm.
Et le dernier point, c'est notre gouvernement, madame. Il faut que le gouvernement congolais prête une force au PEV, enfin concerne les moyens financiers, les moyens de transport.
Mm-hmm.
Afin d'éradiquer totalement la poliomyélite. Voilà, madame, c'est quelques points que j'avais pour la réussite de l'émission.
Merci, Didier Zepa Badolite. Merci pour votre intervention. Nous allons aussi écouter Prince qui est à Goma et les villes tout de suite après ceci.
Parole aux auditeurs.
Aujourd'hui, nous parlons de la campagne de vaccination. C'est une énième campagne parce que la RDC, depuis le début des années 2000, on a pu avoir plusieurs fois des campagnes de vaccination, mais celle-ci, elle a été organisée à cause du fait qu'on a pu enregistrer encore des cas de poliovirus sauvage dans notre pays au cours de cette année, mais aussi, il faut dire qu'entre 2006 et 2009 plutôt, on a connu à environ 62 cas de polio. C'est assez difficile parce qu'il suffit d'un seul cas de poliomyélite et ce cas peut contaminer 200 enfants. Et vous voyez un peu ce que ça peut donner, une société où il y a plusieurs personnes qui peuvent tomber malades. Vous savez ce que ça a comme impact, non seulement pour la famille, pour la personne elle-même, mais aussi pour toute la société. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous parlons de cette campagne de vaccination qui s'est déroulée. Et il y a une seconde phase qui est prévue au mois de septembre où les autres provinces qui n'ont pas pu organiser cette première phase vont s'y bénéficier de cette campagne. Nous avons essayé de pouvoir avoir, bien sûr, le coordonnateur, mais du PEV, ça n'a pas été facile parce que tout juste hier, il a appris que parmi ses cadres, son staff, il y a certains qui sont décédés au cours du crash qui s'est fait hier dans la ville de Bandundu, non loin de la ville de Bandundu, ce qui a été pour lui difficile de pouvoir venir à ce studio. Mais nous sommes là et nous en parlons avec vous, auditeurs, parce que vous, si vous êtes parents, vous avez un petit frère, une petite sœur, vous avez une nièce, un neveu qui a moins de 5 ans et qui reçoit ce vaccin, ou bien que pensez-vous de ce vaccin et que faut-il faire vraiment pour mettre fin à cette maladie? Nous en parlons avec vous. Bonjour, Prince.
Madame la journaliste.
Prince, on vous écoute. Quelles sont vos propositions?
J'aurais 3 points à relever. 2 points vont se présenter sous forme de questions que d'autres intervenants vont réagir par après.
Mm-hmm.
Le premier point, j'aimerais savoir pourquoi. Sur 11 provinces et contre la RDC, on a vacciné seulement 7 provinces. Or, les provinces qui sont restées, c'est là où on avait vu encore la pandémie se manifeste.
Mm-hmm.
Notamment le Nord Kivu, c'est parce qu'on avait vu encore, c'est là où on avait vu encore le virus et le Katanga, la frontière du Congo et l'Angola. Mais on a laissé ces provinces, c'est là où se manifeste encore le virus. On vaccine d'autres provinces, c'est pourquoi on avait fait cela.
Oui.
Moi, je crois qu'on devait vacciner tout le pays, toutes les provinces, pour s'assurer au moins qu'on a éradiqué la maladie.
Mm-hmm.
Bon,
Mais par rapport à ça, si vous faites presse, par rapport à cela, il faudrait dire que la province du Katanga a connu cette campagne de vaccination et selon le programme, il est prévu une seconde phase au mois de septembre pour les provinces qui n'ont pas, où on n'a pas pu organiser cette vaccination. Mais savoir pourquoi ça n'a pas été fait au même moment, là, ce serait un peu difficile de savoir. Mais nous allons quand même, de toutes les façons, comme vous avez posé la question, nous allons nous intéresser sur la question pour savoir pourquoi ça n'a pas été fait simultanément. Quelle est votre deuxième question, Prince?
Ma deuxième intervention. Mm-hmm. Bon, pourquoi chaque fois, quand on entend que le virus se manifeste encore, qu'on organise des campagnes de vaccination, mm-hmm. pourquoi ces campagnes ne peuvent pas s'organiser avant que même le virus se manifeste? Mais chaque fois, on attend en fait qu'on ait quelque part, on a entendu quelque part, le virus se manifeste pour organiser ces campagnes. Moi, je crois que ce sont des campagnes qui vont s'organiser d'une façon habituelle de temps en temps pour essayer, au moins pour s'assurer. Mm-hmm. On a pu éradiquer d'une façon intégrale cette pandémie. Quoi.
Mm-hmm. Et quelles sont vos propositions, Prince?
Bon, ma suggestion, c'est que je pourrais dire. Moi, pour le ministre, pour ceux qui concernaient par ces campagnes, moi, je voulais leur donner cette doléance de commencer la vaccination dès que l'enfant naît, on commence. Là, donc, il faut qu'ils équipent davantage les campagnes, les centres hospitaliers, surtout les centres qui sont en village. Parce que souvent, on vaccine ceux qui se trouvent en ville et on laisse ceux qui se trouvent dans des villages. Donc, j'aimerais ce qu'on puisse au moins équiper les centres de santé pour qu'ils commencent, pour qu'ils effectuent ce travail, même pour ceux qui restent au campagne.
Merci, Prince. Pour votre intervention, je peux vous dire aussi quelque chose, c'est que notre pays est divisé en zones de santé, les zones de santé sont aussi subdivisées, et ainsi de suite. Et souvent, dans chaque zone de santé, dans chaque aire de santé, il y a souvent une structure qui est chargée, en fait, de la vaccination des enfants. Il y a aussi la vaccination de routine. Donc, normalement, selon le programme de santé ici en RDC, normalement, tous les Congolais doivent bénéficier, cela d'une façon gratuite, des vaccins, les vaccins qui se donnent souvent de 0 jusqu'à 9 mois ou à moins d'une année. Mais de toutes les façons, peut-être nous aurons un médecin au cours de cette émission qui pourra vous donner beaucoup plus de précision, parce que ce vaccin, pendant ces vaccins, qu'on appelle souvent la vaccination de routine, il y a aussi le vaccin contre la poliomyélite. Donc, les enfants reçoivent leur vaccin, ceux qui respectent, si les parents respectent le calendrier vaccinal de leurs enfants, normalement, chaque Congolais va bénéficier, et cela gratuitement, de la vaccination. Mais nous aurons un médecin au cours de cette émission, et j'espère que, Prince, comme vous êtes à Goma, où vous nous suivez sur 105.2, vous serez toujours branché sur Radio Kapi, comme ça vous aurez une réponse d'un spécialiste. Nous vous disons merci. Bonjour, Neville.
Bonjour, madame.
Vous êtes à Kananga, on vous écoute.
Oui, la campagne de vaccination se passe très souvent ici. Il faut d'abord signaler qu'il y a des avancées très significatives par rapport à l'éradication de cette maladie.
Mm-hmm.
À considérer les taux actuellement, vous savez que les taux étaient très élevés dans les années passées et il y a des avancées assez significatives. Je voudrais relever certaines observations, dont notamment celles relatives à la campagne.
Mm-hmm.
Les parents sont très souvent sous-informés parce que je crois avoir vécu dans la commune de Lukonga où je suis. Bon, je suis à Kananga, mais je suis à Lukonga autrefois.
Mm-hmm.
J'ai vu un papa qui n'a pas voulu faire vacciner ses enfants parce que la tendance religieuse obligeait à ce qu'il n'y ait pas des produits pharmaceutiques modernes administrés mm-hmm. aux enfants. Bon, vous voyez qu'il y a un véritable problème de sous-information. Il faut que les agents de santé et le gouvernement mettent sur pied une bonne sensibilisation.
Mm-hmm.
C'est d'abord ça la première recommandation. Et la deuxième recommandation, c'est par rapport aux vaccinataires. Si les cas sont encore en train de se perpétrer actuellement, c'est parce qu'on n'arrive pas à atteindre la totalité de la population. Hein, vous voyez un peu ça.
Mm-hmm.
Les vaccinataires sont en train de marcher de porte à porte. À un moment donné, ils se disent, écoutez, nous sommes fatigués d'ailleurs. la motivation est très faible. Est-ce que nous ne pouvons pas jeter ces vaccins? Ils jettent par moment des vaccins, hein, ils jettent comme ça, ils disent, ils vont compléter sur les papiers. Non, nous avons vacciné 200 enfants. Au contraire, si en réalité nous voulons parcourir leur liste analytique, nous découvrons que c'est, par exemple, 80 au lieu des 200 déclarés. Donc, vous voyez que ce n'est pas quand même normal. Ça dépend aussi de la conscience professionnelle. C'est pour cela que je voudrais rejoindre l'avis de mon ami qui était en Bougemaï, qui a dit il faut qu'on prenne les spécialistes en la matière. Vous savez, les services de santé, madame, c'est la vocation. Hein. Il faut d'abord avoir cette vocation-là de marcher, quelle que soit la politique motivationnelle très faible.
Mmh.
Il y a des gens qu'on est en train de vérifier sur la rue, parce qu'il est frère, je ne sais pas moi à qui, il est c'est même parti politique et tel, il faut qu'il soit pris pour qu'il ait aussi 5 dollars par jour, ce n'est pas bien, d'abord ça. Et aussi, il faut un bon suivi accompagnement. Donc il faut qu'on suive de près ces activités, comment elles sont en train de se dérouler. Il y a l'UNICEF qui prend aussi les moniteurs indépendants, pour suivre les vaccinataires après. C'est là aussi, vont se mettre dans leur chambre, et à la fin, là, ils commencent à remplir, ils disent, non, je suis passé, on a atteint toute la population. Cependant, en réalité, ça n'a pas été le cas. Donc, il faut un bon suivi, on suit les choses de près, de telle façon qu'on arrive à l'éradication quasi totale de cette maladie.
Merci, merci beaucoup. Vous avez autre chose à ajouter?
Oui, un petit rien que je voudrais encore ajouter.
Mm-hmm.
Il faut aussi qu'on cherche à animer auprès des bailleurs de fonds, des partenaires qui sont en train de patronner ces activités, afin qu'on cherche encore à allouer des fonds aussi importants pour motiver les personnels vaccinataires. Comme ça, il peut travailler, il sait qu'à la fin, je vais avoir autant. Il peut le faire avec âme et conscience, madame. Je crois que ce sont des petites recommandations que j'avais.
Merci Augustin. Nous allons à Kindou, bonjour, plutôt Martinetville. Nous allons à Kindou, c'est pour Augustin, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Oui, Augustin, on vous écoute.
Oui, je commencerai par dire que je suis tout à fait d'accord avec celui qui vient de parler ici à son premier volet.
Mm-hmm.
Quand il a énoncé que les vaccinateurs, quand ils sont en terrain, parfois ils sont fatigués, ils ne sont pas en mesure d'atteindre toutes les couches. Et des fois, ils oublient d'écrire les nombres exacts des enfants qui sont vaccinés. Ils exagèrent pour montrer aux chefs, aux gens qui les ont envoyés sur le terrain, qu'ils ont vraiment vacciné beaucoup de gens. Ça, c'est le premier volet, c'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec lui. Le second volet sur lequel, oui, notre pays ne peut pas laisser les mauvaises habitudes. On ne peut que prendre les gens qui on connaît. C'est ça pour avoir du travail au Congo. On les fait les valeurs, on prend les antivaleurs. Quand on prend n'importe qui pour être opéré, vacciner les enfants, qui n'est pas du domaine, madame, attendez-vous à un résultat négatif.
Mm-hmm.
Et je voulais qu'on puisse mettre un nombre élevé de vaccinataires au lieu de mettre 4 personnes par exemple, pour 15 avenirs ou 20 avenirs. Si on mettait 20 vaccinataires pour 10 avenirs, je pense que ça va bien marcher. Mais on ne peut pas prendre beaucoup de gens, pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont déjà détourner de l'argent et ils préfèrent prendre un nombre inférieur pour que les gens ne soient pas atteints dans toutes les couches.
Mm-hmm. Voilà vos propositions. Merci Augustin pour votre intervention. Nous avons en ligne un médecin, il s'agit du docteur Richard, les spécialistes en santé publique. Tout ce qui pourra donner son point de vue par rapport à l'éradication du poliovirus en RDC.
Parole aux auditeurs.
Bonjour docteur Richard.
Bonjour Marie Chantal.
Bonjour.
Et mes condoléances à la grande famille médicale de la RDC suite à la nouvelle que vous venez de donner.
Mm-hmm.
Donc la grande famille qui gravite autour du ministre de la Santé publique, Dr. Viti Makonge, je leur présente mes condoléances.
Merci beaucoup Dr. Richard. Mais dites-nous, aujourd'hui nous sommes à la énième campagne de vaccination. Vous êtes médecin. C'est depuis le début des années 2002 qu'on a commencé ces campagnes de vaccination. Est-ce que vous ne pensez pas que ça devient un peu une certaine routine pour la population congolaise?
Non, je ne crois pas à cela, parce que si nous regardons les performances réalisées par les pays que nous qualifions des pays qui ont éradiqué la polio, ils ont travaillé pendant beaucoup de temps et ils ont dépensé beaucoup d'argent,
mm-hmm.
tout en imprimant à leur communauté une conscience de haut niveau mm-hmm. pour faire face à ce mal qu'est la polio. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas une histoire d'un jour, d'un an, de 10 ans. Non, ça doit prendre le temps que ça peut prendre mm-hmm. par rapport à nos moyens et par rapport aussi au degré de compréhension de la communauté.
Mmh. Mais aussi, voilà. Il y a un problème, on a l'impression qu'il y a plus de sensibilisation lorsqu'il y a des campagnes de vaccination, et pourtant, il y a la vaccination de routine qui existe et qui inclut le vaccin contre la poliomyélite.
Oui, il faut qu'on fasse la différence entre la vaccination de routine et la campagne. La vaccination de routine, c'est ce qu'on fait habituellement, en faveur des enfants qui doivent bénéficier de ce vaccin-là. Par contre, la campagne de vaccination, là c'est une urgence parce que dans la zone où on avait vacciné, la maladie est apparue. Et là, on cherchera à ce qu'on puisse immuniser le plus d'enfants possible mm-hmm. par rapport au site qui a fait sortir la maladie, si je peux parler facilement pour que tout le monde comprenne. Mmh. Là, c'est une urgence pour encercler le poliovirus et l'étouffer par rapport, disons, en rapport avec l'immunisation qu'on aura dans la communauté. Mmh. Donc, on doit faire cette différence. Donc, c'est une urgence. C'est une campagne, comme on dit, d'alerte maximale pour mettre hors d'état de nuire le virus qui est apparu par la maladie qu'on a vue.
Est-ce que vous ne pensez pas que s'il y avait un respect de la vaccination de routine, on pourrait éviter ce genre de maladie et ainsi profiter d'autres, de ces fonds pour faire autre chose et juste faire des campagnes de vaccination?
Non, il ne faut pas qu'on puisse, comment je peux dire, confronter la vaccination de routine à la campagne de vaccination. Mm-hmm. Les deux sont valables parce que les deux agissent dans des moments différents, mais en temps différent pour le même objectif. Mm-hmm. Voilà. Donc on ne peut pas créer une polémique entre les deux.
Mm-hmm. Merci beaucoup, docteur Richard. On vous garde en ligne hein, le temps que peut-être il y a d'autres auditeurs qui voudraient avoir d'autres éclaircissements concernant les campagnes de vaccination, concernant le poliovirus sauvage. Nous allons aussi écouter docteur Jean-Baptiste Souli. Il est coordonnateur provincial du PEV au Maniema. Bonjour, docteur.
Bonjour, madame.
Oui, vous êtes dans l'île des provinces, vous avez connu cette campagne de vaccination. Est-ce qu'on peut dire pour l'instant que les résultats sont positifs?
Oui, personnellement, j'ai déjà quelques résultats partiels qui sont venus de certaines zones de santé. Nous attendons que les autres zones de santé puissent nous balancer les résultats. Mmh. Mais les trois zones de santé qui ont envoyé les résultats, et nous voyons que c'est vraiment positif et qu'il y a eu une implication de tous les acteurs sur le terrain.
Mmh. Il y a eu des préoccupations de nos auditeurs qui pensent que souvent il n'y a pas une assez forte motivation des vaccinateurs. Les vaccinateurs eux-mêmes peut-être ne présentent pas certains profils, d'autres estiment même qu'ils n'ont pas la capacité ou ne sont pas des experts en santé. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus d'informations concernant le vaccinateur lui-même? Où est-ce que vous le recrutez?
En tout cas, les vaccinateurs sont recrutés d'abord dans l'aire de santé et généralement chez nous, c'est au niveau du centre de santé. Mmh. Les acteurs avec qui on a l'habitude de travailler dans la vaccination systématique, donc le test de routine, et on joint souvent à ces acteurs un mobilisateur, un sensibilisateur qui est un agent de la communauté, c'est-à-dire un relais communautaire, un responsable, un leader pour qu'ils puissent orienter, signifier à la communauté pourquoi cette activité doit être menée.
Mmh. Mais la personne qui pose l'acte, la personne qui vaccine, est essentiellement un personnel de santé.
Affirmatif. Généralement, nous prenons un personnel de santé pour qu'il y ait vraiment beaucoup de... qu'il y ait un peu de souplesse hein, pour administrer les antigènes.
Mmh. Et docteur, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éradiquer cette maladie?
Bon, pour l'éradication de cette maladie, c'est d'abord l'implication générale de toute la communauté, puisque s'il faut combattre l'ennemi, il ne faudra pas que ça soit l'affaire d'une personne, ça doit être l'affaire de tout le monde. Et donc, pour arriver à un monde sans poliomyélite, un monde digne des enfants qui n'ont pas d'infirmité, il faudra vraiment que l'implication de tout le monde soit manifeste.
Mmh.
La communauté, les acteurs de santé, les autorités politiques, les ONG, tout le monde doit être impliqué pour que la surveillance de cette maladie soit l'affaire de tout le monde. Et comme ça, on peut bien combattre la maladie.
Il y a un auditeur qui a soulevé, il a souhaité que la chaîne de froid soit respectée. Quand on parle de chaîne de froid, on a l'impression directement, on pense au frigo, on pense au courant. Mais au Maniema, nous savons que c'est une province qui n'est pas vraiment couverte en courant, en électricité. Dites-nous, alors qu'est-ce que vous faites pour pouvoir préserver cette chaîne de froid?
Ah, bon, chez nous, en tout cas, on a corrigé ça depuis beaucoup d'années, puisque l'UNICEF a doté à la coordination du Maniema une chambre froide qui est opérationnelle et qui peut bien garder un lot important de vaccins. Et dans les zones de santé, il y a les réfrigérateurs et nous avons les carburants qui est donné mensuellement du côté du sud pour les 9 zones du sud par les partenaires UNICEF et GTZ de Parc, et du côté du nord et au centre par les partenaires Merlin qui donnent mensuellement le pétrole et donc les réfrigérateurs sont du 1er au 30 bien allumés et donc pas de problème par rapport à la conservation. Mais par rapport au transport aussi, nous prenons soin de transporter d'abord, quand ça vient de Kinshasa, du niveau central, la chaîne de froid est respectée, puisque à ce niveau, on remet les vaccins que le jour où les transporteurs sont prêts à amener en province, et ils avertissent, toute l'équipe logistique est avertie, et donc on récupère ça immédiatement de l'aéroport vers la chambre froide, et pour envoyer ça dans les antennes, on respecte les mêmes circuits, puisqu'on a assez d'accumulateurs qui sont bien gardés, et donc on demande à ce que on envoie les vaccins avec les acquis bien congelés et ça arrive dans les zones de santé avec les systèmes de froid bien respectés dans les zones de santé.
Les
zones de santé aussi peuvent envoyer dans les aires de santé tout en respectant les circuits. Donc par rapport à la chaîne de froid et à la chaîne de froid, oui, on n'a pas de problème à ce niveau puisqu'au moins tous les acteurs sont informés, avisés pour que les vaccins ne soient pas détériorés.
Et cela est respecté même au niveau du vaccinateur qui se promène avec un box.
Affirmatif, puisqu'on a beaucoup de boîtes isothermes, on a des acquis, et donc à ce niveau, pas assez de problèmes.
Merci beaucoup, docteur Jean-Baptiste, pour votre intervention sur Radio Capi dans cette émission Parole aux auditeurs. Nous allons aussi écouter Félix de Lubumbashi.
Parole aux auditeurs. Cette émission Parole aux auditeurs est une rediffusion.
Bonjour Félix, vous êtes à Lubumbashi, mais il faudrait dire que Dr Richard est toujours en ligne. Nous vous gardons en ligne le temps d'écouter aussi Félix de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour Madame Chantal.
Oui, on vous écoute Félix. Quelles sont vos propositions pour éradiquer finalement ce poliovirus sauvage?
Oui, merci beaucoup Madame pour la parole. Éradiquer finalement cette virus poliomyélite, donc on doit d'abord commencer d'abord par nos autorités, d'abord le ministère de Santé publique, entre autres ceux-là qui sont chargés du programme élargi de vaccination. En deuxième lieu, c'est à nous, la population, ou les enfants, les parents responsables qui doivent offrir leurs enfants à subir ce vaccin. Parce qu'il y a d'abord un cas qui, des fois, ce sont des cas fréquents. Il y a un dossier que mon ami a dû relever du Kananga. Il dit qu'il y a certains parents qui, des fois, ils ne sont pas informés. Ce sont des informations que les parents peuvent apporter à eux.
La sélection a un problème de liaison, la réalisation, on va tenter de pouvoir vous recontacter, comme ça je pourrais au moins finaliser votre idée, et surtout les propositions et vos observations. Nous allons essayer de pouvoir vous recontacter, Félix de Lubumbashi. Et nous revenons au docteur Richard, qui est spécialiste en santé publique. Docteur, vous avez suivi nos auditeurs, il y a certains, on pense, il y a certains qui sont encore, il y a des réticences des fois parce qu'ils se posent des questions sur la viabilité du vaccin, il y a d'autres qui pensent qu'il faudrait un peu plus de sensibilisation, plus d'informations. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait être fait?
Oui, à ce niveau, madame, nous avons beaucoup de choses à faire. Et beaucoup de travail aussi. Pourquoi? Parce que le niveau de compréhension de la communauté n'est pas uniforme. C'est pourquoi il faut beaucoup de sensibilisation et l'implication aussi de la communauté. C'est ainsi qu'on parle des vaccinateurs réputés dans la communauté. Parce que ce sont ces gens qui connaissent ceux qui habitent avec eux dans la communauté. C'est ce que nous appelons la participation communautaire, de façon active. Donc ces gens connaissent là où il y a l'enfant qui bénéficiera du vaccin et il peut, à temps utile, bloquer les parents à la maison pour que l'enfant obtienne son vaccin. Par contre, il y a des gens qui se posent des questions par rapport à la rumeur si le vaccin est inoffensif ou pas sur le plan de la santé.
Oui, surtout, docteur.
C'est là où les choses s'embrouillent.
Oui, parce que, docteur, il y a même un auditeur qui a dit qu'après avoir reçu le vaccin, souvent il y a des enfants qui font des diarrhées, d'autres qui font des petites fièvres.
Mais oui, il a raison de dire comme ça, madame.
Mais les gens, les parents, là, peuvent avoir peur. Ils se disent, en fin de compte, mais pourquoi on doit vacciner mon enfant pour qu'après il fasse une diarrhée ou bien une fièvre?
Mais justement, c'est que les gens ne comprennent pas. C'est le travail de notre désensibilisation. Une vaccination, c'est une agression pour la vie. C'est un paradoxe, mais pour aider. C'est une agression. On agresse l'organisme avec l'antistène ou le microbe atténué de cette maladie pour que le corps développe lui-même les anticorps, c'est-à-dire pour mettre ça à cette maladie. Donc, on prépare le corps à se battre contre l'agresseur qui est le poliovirus. Mais pour préparer le corps, on doit l'agresser par ce qu'on appelle le vaccin. C'est un agresseur. Mais pour conduire le corps à produire ses propres anticorps, c'est ce qu'on peut expliquer à la population. Alors, ce qui fait que, à partir de cette agression, l'enfant peut faire la fièvre, peut faire des diarrhées, peut être dans l'état de manque d'appétit ou l'inappétence, etc. Donc, on doit expliquer tout ça.
Oui, docteur, on vous garde en ligne. On va écouter Félix. Je pense qu'on a pu vous recontacter. Félix, on vous écoute.
Et alors?
Oui, Félix, on a pu vous recontacter. On vous écoute. Vous êtes en train de témoigner. D'ailleurs, vous êtes à un endroit où il y a un peu plus de bruit. Hein. Avant, c'était mieux. Mais là, est-ce que c'est possible que vous puissiez vous déplacer? Je vais revenir à vous, Félix. Mais écoutons d'abord Francis, le temps que la liaison soit meilleure entre Félix et Radio Capi ici à Kinshasa. Nous prenons d'abord Francis, qui se trouve ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
Oui, Francis, on vous écoute. Quelles sont vos propositions pour pouvoir éradiquer finalement ce poliovirus sauvage en RDC?
Oui, mais je suis un peu très heureux de l'initiative que le gouvernement a pris pour avoir mis en place un vaccin pour pouvoir protéger nos enfants contre la poliomyélite. Je crois que c'est une initiative très, très, très capitale, mais il a fallu d'abord au gouvernement pour se mettre une structure en place pouvant aider, n'est-ce pas, au niveau de la presse, à sensibiliser d'abord la population qui ne savait absolument rien l'importance de cette vaccination. Comme ça, en ce moment-là, au niveau de la presse, le gouvernement va sensibiliser les parents. Et maintenant, là, les parents seront maintenant en mesure de savoir que non, nos enfants peuvent maintenant les prendre. Voilà, ça ne fait pas de bien. C'est ce que dit un auditeur là à parler. Il arrive dans les parcelles, on ne trouve pas des parents, des maisons fermées. Cela est dit. C'est une différence quelque part, c'est il y a manque de leadership quelque part, donc on ne devrait pas seulement se limiter à ce niveau-là qu'on vient de dire, mais il faut projeter beaucoup plus, sensibiliser en fait les parents pour savoir l'importance de cette vaccination.
De cette vaccination, donc plus de sensibilisation. Merci Francis, on a perdu notre auditeur de Lubumbashi, Félix, donc vraiment on s'excuse, la liaison ne s'est pas du tout améliorée. Alors nous allons encore une fois redonner la parole au docteur Richard qui est spécialiste en santé publique. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission, il nous reste 8 minutes. Docteur Richard, nous avons constaté que la plupart des cas de poliovirus qu'on enregistre dans notre pays viennent souvent des pays voisins. Dites-nous alors à ce moment-là, qu'est-ce qui peut être fait? Parce qu'en RDC, on peut faire un effort, comme on l'a fait pendant certaines périodes, il n'y avait plus de cas de poliovirus sauvage, mais il y a une résurgence et souvent ces cas viennent des pays voisins. Dernièrement, la campagne passée, il y a eu une campagne simultanée dans une province de l'Angola qui est voisine à celle de la RDC. Mais qu'est-ce qui peut être fait davantage pour éviter et éradiquer cette maladie?
Ce qu'il faut faire davantage, Marie-Chantal, c'est d'éviter d'incriminer les voisins. Ça, c'est un. Deuxièmement, de chercher à collaborer et à travailler la main dans la main avec les voisins. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le même peuple font des mouvements de va-et-vient à travers les frontières de RDC avec des pays voisins. Donc c'est difficile de dire que c'est tel peuple qui avait en lui le virus et qui l'a amené de l'autre côté. Donc qu'on cesse d'incriminer les voisins, qu'on travaille durement dans le pays et en collaboration avec les pays voisins. Donc, c'est une stratégie facile à instaurer pour que on ne puisse plus mutuellement s'accuser ou s'accuser. Voilà. Donc, c'est difficile de dire que c'est tel peuple qui a amené ça. Mais c'est facile de dire à tel coin, par exemple à Tchéla, il y a eu un poliovirus qui est, la polio qui est apparue. Ou alors, dans la province de Kabinda en face de Tchéla, il y a eu un enfant qui a présenter la polio. Ça, c'est facile à dire. Mais ce qui est difficile à dire, c'est de préciser qui a amené ça. Mmh. Alors, donc, pour ne pas s'entraîner dans cette polémique d'accusation mutuelle, il faut que les États travaillent de concert, la main dans la main, pour bouter dehors le poliovirus.
Mmh. Nous allons écouter aussi Jelly, il est de Lubumbashi, qui va aussi donner son avis en une minute. Bonjour, Jelly.
Oui, bonjour, Radio Capi.
Non, on vous écoute. Quelles sont vos propositions pour finalement mettre fin à ce poliovirus?
C'était juste une question. C'était juste une question. À l'introduction de cette émission, vous avez dit qu'un enfant qui souffre de poliomyélite a la capacité de contaminer plus de 200 personnes. Mais là, mon problème, c'est de savoir de quelle manière on va contaminer d'autres personnes.
Merci. Merci, Jelly. On espère que vous allez rester branché sur Radio Capi pour pouvoir suivre la réponse, parce que nous avons un médecin avec nous. Vous êtes à Lubumbashi, c'est dans la province du Katanga, où vous nous suivez sur 95.8. Donc, restez branché sur Radio Capi. Docteur Richard, vous pouvez répondre à notre auditeur.
Oui. La contamination est facile à imaginer. Pourquoi? Parce que cet enfant qui est atteint de cette maladie est dans la communauté. Il émet des déjections, il émet les excrétions de son corps, etc. C'est ce qui peut contaminer la communauté.
Mm-hmm.
Voilà.
Donc,
au départ, c'est ce qui sort de lui.
Mm-hmm.
Voilà.
Donc on arrivait facilement à 200, comment ça se passe?
Mais justement, parce que la contamination se fait de personne à personne. Une personne peut amener plus loin ce qu'un malade émet.
Mm-hmm. Donc, voilà. C'est une maladie de main sale à peu près.
Une maladie de main sale, mais c'est la maladie aussi des contagions faciles.
De contagions faciles. Voilà. Il y a Maître Désiré Moulimba Kibela, il nous écrit à partir de Lubumbashi, il écrit ceci. Quant à moi, pour arriver à éradiquer cette maladie, l'État congolais doit faire passer régulièrement l'information à la télévision et à la radio, mettre des panneaux publicitaires dans des grandes avenues de la ville, faire des dépliants à distribuer gratuitement où l'on pourra trouver toutes les informations possibles sur la poliomyélite, pourquoi pas un calendrier en vue, faire aussi de porte-à-porte avec des experts en la matière, et cela pas seulement lors des campagnes de vaccination, mais aussi que cela soit périodique, que cela se fasse tout le long de l'année et pendant toute la semaine, et qu'on n'attende pas les campagnes de vaccination pour pouvoir sensibiliser la population. Docteur Richard, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Une conclusion, un message pour lutter contre la poliomyélite. Que peut faire vraiment la population et que peuvent faire les autorités sanitaires?
Ce que je peux dire, c'est que tout le monde doit rester éveillé. Ça, c'est un. Deuxièmement, mobiliser les consciences vers un résultat positif. Troisièmement, mobiliser les ressources pour qu'on puisse avoir dans nos soutes, dans nos chambres froides, les vaccins en quantité utile et nécessaire.
Mm-hmm.
Voilà. Donc, si on fait comme ça, on peut résoudre ce problème, on peut bouter dehors le poliovirus.
Merci beaucoup, docteur Richard.
Merci.
Pour votre participation. Docteur Richard Mkalenge, vous êtes spécialiste en santé publique, vous êtes ici à Kinshasa. Nous disons aussi merci aux auditeurs pour leur intervention et aussi ceux qui nous suivent avec attention sur soit en FM, soit par Internet sur notre site www.radiocapi.net. Et demain, nous aurons un nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Demain, nous parlerons des mariages précoces, un phénomène qui a un effet néfaste sur le plan physique, mental et intellectuel des victimes. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, le Cathay occidental enregistre un taux élevé des mariages précoces, avec 54,3% des filles analphabètes mariées à l'âge de 15 ans. Deux questions, quelle est la situation chez vous et que faire pour réduire et tenter de mettre fin à ce genre de mariage? Vous pouvez donner votre point de vue dès à présent en nous écrivant l'adresse internet pa@radiookapi.net. Nous disons merci à Titi Poutou, à Pierre Lamézis, la supervision de Nicole Gata qui ont réalisé cette émission, et Jifé Siala était à la mise en onde. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Parole aux auditeurs avec Pierrot et la mission.